Méritil, séance du conseil municipal en salle polyvalente le jeudi 26 juin 2025 à 20h39. Enregistrement intégral et sans pause. Je commence donc par l'appel nominal. Thomas Valérie présente. Traclet Vincent excusé donne pouvoir à Valérie Pomaz. Elisabeth Bonomont.
Présente.
Jean-Marc Viennot.
Présente.
Delphine Viennot.
Présente.
Angélique Pujat.
Présente.
Michel Arger.
Présente.
Catherine Ferron.
Présente.
Christian Julien.
Présent.
Victor Passarella est en Chine. Patrice Auray.
Présent.
Estelle Grumet.
Présente.
Damaris Caropi.
Présente.
Lionel Gauthier est en Écosse. Et Dost Véronique est excusée. Ensuite. Il nous faut approuver le compte-rendu du conseil municipal du 27 mars 2025. Est-ce que sur ce compte-rendu, vous aviez des remarques ou des questions? S'il n'y en a pas, je vais donc le soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions adoptées? Je vous remercie. Il nous faut, pour ce conseil municipal, désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des candidats ou des candidates? Eh bien, Delphine, sans surprise, merci beaucoup. La première délibération donc, concerne la révision... L'arrêt des études du projet de révision du plan local d'urbanisme et le bilan de concertation. Cette révision a été décidée en conseil municipal en date du 21 octobre 2021 par rapport au nouveau choix d'aménagement, aux nouvelles lois, puisque notre PLU actuel date du 13 novembre 2015. Hein, donc depuis, il y a eu énormément de nouvelles lois qui sont venues changer aussi les normes, les règles, etc. Et puis 10 ans pour un document d'urbanisme, c'est aussi le temps de revoir tous ces aménagements avec tout ce qui s'est passé en 10 ans. Hein, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc il y a eu plusieurs réunions publiques qui ont été organisées. Il y a eu le PADD qui a été présenté en septembre 2023. Il y a eu une concertation qui est ouverte. Donc bon, il y avait un recueil du 21 octobre 2021 jusqu'à ce jour. Un bilan de concertation, vous avez eu plusieurs masses de documents qui vous ont été transmis. C'est ce que je disais tout à l'heure au quart d'heure citoyen, c'est que cet arrêté de projet va maintenant donc être transmis ainsi que son évaluation environnementale aux personnes publiques associées, hein, les PPA, qui ont après 3 mois pour se prononcer sur soit donner un avis favorable, soit défavorable, soit faire des remarques, et puis donc qu'il va falloir reprendre et revoir avant de lancer véritablement l'enquête publique, où là en fait tout le monde pourra venir soit faire des remarques, soit voir le commissaire enquêteur. Et ensuite, après, il y a le commissaire enquêteur qui donne son avis avant l'approbation finale. Donc, si on reprend les grandes lignes de ce qui a été présenté en réunion publique le 16 avril, donc tout ça est sur... Je l'avais ouvert. Il est tout prêt, voilà. Est-ce que c'est celle-là? C'est du mois d'avril? Oui. Donc, si... On reprend, alors on va peut-être pas reprendre les 120 diapositives, donc de toute façon vous les avez eues et puis elles sont sur le site. Donc là on reprend toute la procédure et toutes les nouvelles lois, etc. de ce qui en découle. Donc la première réunion publique le 13 octobre 2024, le PADD d'abord en septembre 2023, la première réunion publique numéro 1 13 octobre 2023, l'atelier de concertation avec les habitants qui a eu lieu 9 décembre 2024. Donc là, il y avait quelques slides concernant cet atelier de concertation. Et ensuite, donc, on présentait donc, les orientations, les fameuses orientations d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle les OAP, le nouveau zonage et les grands principes du nouveau règlement. Donc, et le calendrier prévisionnel. Hein, donc là, nous en sommes juin 2025 à l'arrêté projet du PLU. Ensuite, c'est la préanalyse des avis PPA, l'enquête publique, l'analyse des PPA et du rapport d'enquête publique. Et enfin, l'approbation finale du PLU en conseil municipal d'ici, nous l'espérons, la fin d'année. Ensuite, les grands enjeux. Alors, on va peut-être pas refaire tout ça, peut-être aller directement. C'est quoi ce truc qui apparaît là ? D'accord. Bon, c'est le village inondable, ça, le PPRI, ça, on ne peut pas en faire fi. Et puis donc les orientations hein, du projet qui sont sur quatre orientations tirées parti de l'attractivité résidentielle par un développement urbain soutenable et respectueux des qualités d'habitat-t-il, améliorer le fonctionnement urbain communal et offrir des réponses durables aux besoins des habitants et des usagers du territoire, composer avec les risques naturels et réduire la vulnérabilité du village face au changement climatique et enfin préserver les qualités environnementales du territoire. Donc il faudrait plutôt aller plus loin. Donc la trame verte et la trame bleue, bien évidemment, qui ne sont pas oubliées. Ça, c'était le PADD. Et ensuite, donc la présentation qui avait été faite des OAP. Donc ce sont les grands secteurs du village qui sont encore à urbaniser, si je puis dire. Donc il y a l'OAP centre-village, où là nous avons plutôt des tènements qui sont déjà au niveau des logements, bah, soit finir de se construire comme le bâtiment Semcoda. Et puis la partie du terrain de la division Wolf qui a été achetée par la mairie. Donc ça, ensuite, il y a l'OAP, donc rue d'église, avec la possibilité de réaliser au maximum 4 logements sur cette voie qui est assez contrainte en termes de circulation, puisque c'est une voie qui n'est pas large. Ensuite, il y a l'OAP rue du Canal qui préconise là encore un maximum de logements, mais aussi et surtout une voie de circulation commune pour permettre une circulation optimum non seulement des véhicules, mais aussi des piétons, des modes doux. L'OAP de la rue de la Mairie, donc là c'est pareil avec une optimisation donc justement des accès pour pouvoir permettre une circulation voiture donc via la rue de la Mairie, mais également la possibilité de créer une voie mode doux qui rejoindrait le chemin de la Fromagère pour pouvoir prévoir d'accéder à vélo ou à pied via le chemin de la Fromagère et ensuite rejoindre le nouveau chemin qui a été fait pour pouvoir revenir sur le centre-village, le chemin Louis-Arger, ou le City Park, ou le Rhône, ou le chemin du Madurand, etc. Ensuite, nous avons l'OAP rue du Stade, donc avec un maximum de 20 logements. Et là, c'est pareil, la création à l'intérieur d'une voie. Alors, ce n'est pas la position hein, qui est... c'est pas le trait, ne dit pas où. Elle donne l'esprit de ce qu'il faut réaliser, à savoir un passage piéton ou vélo pour pouvoir passer du parc de loisirs et bien rejoindre très facilement le centre du village avec donc un maximum de 20 logements et puis toujours des écrans végétales à créer ou à préserver. C'est pénible ce truc. L'OAP du Quai des Amours, hein, donc là qui redéfinit un petit peu ce que l'on veut préserver sur cet endroit. Et puis, qui définit également dans tout le village tout ce qu'on appelle les modes de circulation plutôt mode doux et aux trams vélo-piétons en donnant des exemples de ce que l'on peut, par exemple, via le chemin de halage, aller Place Bellecour. Donc, c'est à 19 km très précisément. Et à vélo, c'est environ 57 minutes pour les plus... une moyenne, en moyenne. Voilà, donc ça, c'est des choses, projet passerelle, hein, qui est toujours inscrite, alors même si ce n'est pas cet endroit précis-là, hein, c'est vraiment dans l'idée d'avoir sur notre territoire ou proche Bénotil, eh bien une passerelle qui permette de rejoindre d'abord Til, parce qu'en face, c'est aussi Til, mais si cette passerelle est plus loin, pourquoi pas, mais néanmoins de rejoindre surtout le Grand Parc et de pouvoir rejoindre en mode doux vélo, par exemple, eh bien les Panettes, mes yeux, le tram et puis tous les chemins voies lyonnaises maintenant qui traversent le Grand Parc. Le zonage, pour l'instant, on avait un zonage qui inscrivait des différences dans le village, hein, puisqu'il y avait, le zonage UA qui permettait de faire un certain nombre de choses, un zonage UB qui était un peu plus contraignant, et un zonage UBA qui était, lui, vraiment très contraignant, puisqu'il interdisait tout, alors qu'au PPRI, il n'y avait que deux zonages qui étaient rouges, bien évidemment, quand le lieu est inondable. Donc là, bien sûr, pas de possibilité de construire. Mais il y avait donc deux zonages, un bleu clair et un bleu foncé. Et nous avons voulu, par ce nouveau zonage, rendre uniforme, finalement, ces deux zonages, en proposant quelque chose qui est plus contraignant pour ceux qui étaient en UA, mais pour UB et UBA, eh bien faire des rendre possible ce qui pour l'instant était interdit. Donc ça a été donc ça c'est le nouveau zonage qui sera proposé donc aux personnes publiques associées, et on voit que donc hormis les OAP donc dont on a parlé et le centre village qui est aussi une OAP, eh bien il n'y a plus qu'un seul zonage qui rend donc uniforme notre village, avec surtout donc la prescription de construire si l'on est en dessous de la côte, et bien sous vide sanitaire, donc c'est les grands. Voilà, donc avec différents zonages. Bien évidemment, hein, je parle ici des zones urbaines, mais il y a toute la partie agricole, naturelle, qui celle-ci n'a pas changé, hein, puisque les constructions ne prendront pas sur les terres agricoles, bien évidemment, que tout sera, il sera possible de construire dans ce qu'on appelle l'enveloppe urbaine, qui a été définie par le SCOT. Hein. Le SCOT, c'est le schéma de cohésion et d'orientation du territoire. Et donc c'est ce SCOT qui nous a donné une enveloppe urbaine où l'on peut continuer à urbaniser le village. Donc ce qui est toutes les définitions agricoles, ça ne change rien. Et donc la particularité de ce zonage maintenant, c'est d'avoir ce vide sanitaire ouvert. Donc on peut peut-être voir sur la slide d'après, avec un schéma beaucoup plus simple à comprendre. C'est-à-dire que si on est en dessous du terrain naturel avant travaux, hein, cette fameuse cote NGF, eh bien il faut qu'il y ait la cote de référence du PPRI qui est en vigueur. Eh bien il faudra construire avec des ouvertures que ce soit partie construction et y compris terrasse, un vide sanitaire ouvert pour que l'eau puisse tout simplement circuler sous la maison et ne vienne pas contraindre. Les remblais seront bien évidemment interdits, et puis les piscines seront possibles à condition que le sol de la piscine soit au niveau du terrain naturel et ne vienne pas être plus haut. Donc ça, c'est toutes les possibilités, que ce soit pour les annexes ou les constructions, le schéma est le même. Donc bien évidemment, si les personnes sont au-dessus de la côte, eh bien il n'y a pas besoin de faire de vide sanitaire, mais si on est en dessous, il y aura possibilité. Et ce qui change également, ce sont les clôtures, puisque actuellement en UA, on pouvait faire des murs, en UB, on ne pouvait pas faire de murs. Donc là, il n'y a plus de murs. Les clôtures ne seront constituées que d'un grillage, je sais que c'est écrit,
en
un grillage rigide possible, doublé soit d'une haie vive végétalisée, soit équipé de lamelles occultantes ajourées, mais ce dispositif ne devra pas être installé sur les 20 premiers centimètres du grillage au sol, du grillage depuis le sol, toujours pour ne pas faire obstacle à l'eau. Et puis tout ce qui est mur plein, muret, mur bahut, etc. sera interdit. Par contre, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2 mètres, alors que ce soit à l'alignement des voies publiques ou en limite séparative. Actuellement, on avait 1,50 m en voie publique et 2 mètres en limite séparative, ce qui est pas très logique, parce que quand on est au bord d'une route, on a peut-être plus intérêt et avoir une clôture un petit peu plus haute, alors que là c'était l'inverse. Donc on a uniformisé les choses, enfin il est proposé d'uniformiser les choses en proposant une hauteur de 2 mètres de partout. Et puis le coefficient d'emprise au sol, alors ça c'est également ce qui était ressorti de l'atelier de concertation qui avait eu lieu en décembre 2024, pour justement ne pas trop avoir un village avec des constructions très très rapprochées comme on a pu le voir sur certains lieux, donc avec un coefficient qui sera, alors là c'est plus loin que l'on parle du coefficient d'emprise au sol qui sera de 30%. Et ce que l'on institue également, c'est un coefficient de pleine terre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coefficient de pleine terre? C'est bien... On peut revenir avant? Merci. L'espace de pleine terre, donc un espace perméable, végétalisé, ne pouvant accueillir de construction ou aménagement, ni en surface, ni en sous-sol, sur 3 mètres de profondeur, à l'exception bien sûr des réseaux et des canalisations. Donc c'est un vrai espace qui est dédié à la végétation et à la nature. Là aussi, c'était un souhait de l'atelier de concertation pour pouvoir permettre eh bien, d'avoir des espaces végétales sur les constructions. Bon, ça c'est les calculs de hauteur qui n'ont pas changé mais qui sont peut-être définis de manière plus précise. Et puis là c'est la déclinaison de ce que je viens de vous dire à peu près, à part les alignements, les retraits en limite qui n'ont pas changé par rapport à ce que c'était. Donc là UA c'est le centre-village qui est à conforter. Ensuite le zonage le plus important c'est celui d'après, c'est UB. Merci. Donc là, avec des voies et emprises, limites séparatives qui n'ont pas changé. Donc le coefficient d'emprise au sol de 30%, le coefficient de pleine terre de 30%. Pour les stationnements, ça c'est des choses qui n'ont pas changé par rapport à l'actuel PLU. Il y a aussi des choses qui sont restées, hein, comme la hauteur maximale. Hein, la hauteur maximale, bien sûr, dans tout le village, c'est du R+1 partout. Ensuite, bon, ça sont les zones à urbaniser, hein, donc là les zones, ce qu'on appelle donc les OAP, hein, qui sont ce qu'on appelle les grandes dents creuses, donc là pour lesquelles il n'y a pas de coefficient d'emprise au sol, mais pour lesquelles il y a quand même un coefficient de pleine terre qui est appliqué. Les zones naturelles avec des déclinaisons soit naturelles pures, soit naturelles loisirs comme le City Park, soit naturelles photovoltaïques comme le projet que nous avions souhaité en début de mandat. Hein, donc il fallait la modification du PLU pour pouvoir le faire. Le NG, c'est l'aire de grand passage des gens du voyage, je n'y reviendrai pas. Et le NC, c'est notre corridor écologique qui détermine les règles précises de ce lieu. Donc là, si on reprend la zone N, donc juste avant, donc là c'est des zones où aucun nouveau logement n'est admis. Hein, il y a déjà des constructions, mais donc on ne va pas les détruire. Mais ces logements, enfin il ne pourra pas y avoir de nouveaux logements dans ces endroits, et il y aura une possibilité d'extension qui est très limitée et qui est réglementée. Là, on a pris directement la loi. On a donc c'est la slide d'après. Donc là, qui est la loi qui est une réglementation qui est supérieure au PLU et auquel on se conforme complètement. Donc pour pouvoir limiter justement toute la possibilité d'extension qui sont possibles dans ces lieux N où il y a déjà des constructions. Suite la zone agricole, hein, zone agricole qui est majoritairement, voilà, qui ne change pas non plus, hein, avec des possibilités donc pour les agriculteurs, bien évidemment, de pouvoir construire, sauf dans la zone agricole stricte qui est la zone du PPRI rouge, hein, donc sans surprise. Et donc là, c'est pareil, c'est la loi qui s'applique, hein, on ne va pas inventer des règles qui soient plus permissives sur ces secteurs. Donc c'est la slide d'après. Donc là, des hauteurs pour les exploitations agricoles. Aucun nouveau logement qui est admis hors habitation nécessaire à une exploitation agricole. Donc là, c'est pareil, c'est très réglementé par la Chambre d'agriculture, par toute la réglementation agricole auquel nous allons nous référer. Voilà. UXR, donc ça c'est la zone d'activité économique, elle est en zone rouge du PPRI, donc il n'y a pas de possibilité de construire de nouvelles constructions, bien évidemment, simplement pour celles qui y sont, eh bien, de pouvoir permettre une pérennité donc des activités économiques existantes, mais il y a toujours une emprise au sol et un coefficient de pleine terre à respecter. C'est la zone Actinov, hein, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc ça, on reprend les secteurs, les logements sociaux. Donc là, on n'a pas changé. Donc là, la carte, elle n'est pas bonne. C'est pas celle-là qui est présentée sur le zonage. Il y a un petit décalage par rapport à l'escapade, puisque ce n'est que le bâtiment de l'escapade qui est concerné, mais non pas la maison qui est après. Donc là, il n'y a pas de changement non plus. Les emplacements réservés qui sont créés, qui sont des emplacements qui déterminent des voies pour les cheminements piétons et pour élargissement de la voirie en ce qui concerne la rue du Besson. L'extension du cimetière, ça c'est la même qu'avant. Et puis des cheminements piétons qui resteraient possibles au lotissement Loup, Clos du Village et Jardin de Julia. Donc là, ce n'est pas des obligations, mais ce sont des emplacements réservés où aucune construction n'est possible. Ces chemins verront ou pas le jour en fonction des choix des propriétaires des lieux. Là, ce sont les éléments de patrimoine, hein, donc là on n'a pas non plus inventé des choses par rapport à l'ancien PLU, c'est les mêmes choses. Donc là, on a quelques exemples. Toujours pareil, la protection de la ressource en eau avec le périmètre du puits de captage de Thiel. Les zones humides, la trame verte. Et on parle évidemment aussi dans le rapport d'études environnementales de la trame bleue qui est l'eau et de la trame noire, puisque on a aussi cette trame noire qui est marquée dans cette étude environnementale. Voilà, maintenant c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a beaucoup débattu déjà de tous ces documents, mais à vos questions. S'il y en a, c'est vrai que la dernière fois, c'était la semaine dernière à la Commission Générale et qu'on a déjà beaucoup évoqué, plus toutes les réunions qui ont été faites après la réunion du mois d'avril. Donc la délibération de ce soir, elle porte sur le fait de dire que nous tirons le bilan de la concertation tel que tous les documents qui sont annexés que vous avez reçus. Donc on arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme. On précise que ce projet est transmis à toutes les personnes publiques et que ce document sera exécutoire, donc dès qu'il sera transmis à Madame la Préfète, et les personnes publiques associées ont après 3 mois pour pouvoir rendre leur avis. Voilà. Questions ? Pas de questions ? Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. C'est un pas pour la commune que de voter enfin ce projet de révision de PLU. C'est un gros dossier pour toute cette équipe municipale et je voulais tous vous remercier aussi pour toute l'implication, hein, parce que c'est quand même des années de réunions, de choix, de défaire ses choix, de tout changer. C'est vrai qu'on a vraiment tourné dans tous les sens. Donc voilà, j'espère qu'il collera au mieux aux souhaits du plus grand nombre. La délibération suivante concerne la rénovation de l'école et la construction d'une salle multi-activité. Donc là, il s'agissait donc du choix de l'architecte. Il y a eu un rendez-vous qui a été fixé, je ne sais pas si Jean-Marc tu veux en parler, avec l'agence départementale d'ingénierie, où il y avait monsieur Raymond, donc, qui est l'agence départementale d'ingénierie, qui nous accompagne sur ce projet, Vincent, Jean-Marc, Babette et puis Sandra. Donc il y a eu une procédure d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour cet architecte, avec une analyse des offres qui est faite avec deux manières d'attribuer des notes, en fait, avec le prix qui compte pour 40% et puis la valeur technique pour 60%, alors qu'il s'apprécie en fonction différents critères, que ce sont la présentation de l'équipe, la méthodologie, l'adaptation et la motivation. Et donc, il y avait, je crois, 24 dossiers, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Vous avez...
qui ont répondu. Ouais.
24 cabinets d'architecture, en fait, qui ont répondu.
Qui ont répondu, oui.
Voilà.
Parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus voir, et puis il y en a qui n'ont pas répondu.
D'accord.
Voir puisque ils sont venus sur place, surtout pour voir l'école, parce que la restructuration de l'école.
Ouais.
Parce qu'après, pour le bâtiment neuf, pour avoir le terrain,
c'est facile.
Mais donc celui qui a été choisi, là, enfin, que nous vous proposons, c'est le mieux pour nous. Après, vous vous choisirez si vous voulez pas, mais c'était mon choix. Et donc, et après, celui du bureau d'engineering qui le trouvait bien, parce que aussi il y a la notoriété du cabinet d'architecte qui dit il est très bien, il est ouvert, c'est pas il suit bien ses chantiers, donc c'était un des arguments. Moi j'avais remarqué ici qu'il posait des bonnes questions.
Oui, parce que c'est pas les 24 cabinets d'architectes qui sont venus voir.
Il y a pas il y en a une quinzaine qui sont venus voir.
Ils sont venus, d'accord, quand même. Ok. Et donc c'est un cabinet d'architecture qui est à Bourg. Donc on reste local, ce qui est pas mal. Et donc ce marché de maîtrise d'œuvre, donc c'est l'atelier Laurent Chassagne, donc à Bourg-en-Bresse, et le montant est de 123 598,50. Et donc c'est inscrit. Alors là on l'a pas marqué, mais tu as dit Sandra. Au budget
de dépenses d'investissement 21.31.
Dépenses d'investissement au compte 21.31. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport d'analyse des offres dont vous avez eu les documents qui vous ont été transmis? Non? Oui, Catherine.
Non, j'ai pas
possible. Ah, pardon.
Mais les documents ont bien été transmis.
Oui, oui.
J'ai pas le temps de les regarder. Le numéro 2, il avait combien de. Il était loin du premier en score ou pas? C'est plutôt dans le sens qu'il y a eu le dilemme ou s'il était franchement. Soit vous avez ça en tête, soit c'est.
Non, mais j'ai pas en tête, mais je vais vous le redonner.
Est-ce qu'il y a eu vraiment débat shortlist ou.
Il y en a trois qui sont arrivés en tête.
Ouais.
Oui.
Notre choix, non mais vraiment le choix s'est orienté sur trois.
Et après il y a eu un choix, c'est qu'il y en avait un cabinet d'architecte qui était de Montluel.
Oui.
Et nous on voulait plutôt peut-être un peu plus près prendre
local.
Et lui il nous a dit on a eu des soucis sur des autres chantiers qui sont pas bien suivi, tout ça.
D'accord.
Moi, bon, ça m'arrangeait un peu parce que j'étais parti pour Chassagne, mais,
ouais.
mais c'était.
Bah,
voilà. Donc on s'est laissé guider aussi par un retour d'expérience de l'agence départementale d'ingénierie. Hein, et en fait, ils ont un cabinet, c'était pour les fluides ou c'était pour quoi ils disaient, vous allez être embêté pour le suivi.
Parce que le cabinet d'architecte, il se présente avec une équipe.
Oui, c'est secret.
Il donne une équipe, il dit, ils ont tel bureau d'études, tel machin, tel...
Oui, ils ne travaillent pas tout seuls.
Ils sont partis avec le mauvais cheval, avec, c'était pas...
Voilà, donc là, bon,
après, bon, ce qui m'étonne toujours, moi, c'est la précision du chiffre 123 598 50 centimes.
Mais ça, faut les négocier.
Les 50 centimes ou les 123 000
Détail, ça.
Ah, pardon.
Ouais, c'était pour voir...
Alors, le deuxième, c'est... Ouais, de plus belle. Bah, c'est le cabinet de Montluel, pour ne pas les citer. Donc elles arrivent deuxième. Mais c'est ce qu'il nous disait pour lui, s'il n'y avait pas ce cabinet avec qui.
Bureau d'études,
elles étaient number one. D'accord.
Et le troisième, Studio 99
Alors Studio 99, il nous a plu dans le sens où c'était. C'est celui-là, Babette, où il faisait appel au.
Oui, moi j'avais.
Babette était plus sur celui-ci dans le sens où il y avait de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il voulait initier les enfants, c'est ça?
Oui.
dans le projet. Il était vraiment tourné vers l'écologie.
Il faisait construire aux enfants, quoi. Ouais. L'exploitation.
voilà, Babette avait. Mais on n'avait pas de retour, enfin notamment l'agence départementale n'avait pas de retour d'expérience parce qu'ils n'avaient jamais travaillé avec. Et c'est vrai que Laurent Chassagne, a priori, c'est une valeur sûre parce qu'il est voilà, local de Bourg et il mène beaucoup de projets dans le secteur et ça se passe.
Ils ont présenté des études, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas encore mené, mais des macro-esquisses.
Ah non, pas du tout pour l'instant. Pas du tout. Là, c'était faire une estimation, c'est une. Oui, non.
Par contre,
ça
n'a
rien à voir avec la première appel d'offres qui dépassait les 3 millions. Donc là, après, c'est même l'Europe qui pouvait répondre. Alors là, il fallait présenter des projets qu'ils avaient faits. Après, comme c'est déjà vraiment en dessous, bon, on fait déjà pas mal.
Bah là, Laurent Chassagne, on est dans le traditionnel, on va dire. Tandis que Studio 99, c'était vraiment bois, c'était vraiment des matériaux.
Mais on verra tout.
Voilà. Non, mais j'ai pas dit qu'il était pas mal.
Oui, ce n'est pas de réfléchir vers un type de bâtiment, tout est possible, tout a un coût aussi, bien sûr. Mais,
Ah non, parce qu'il a répondu à l'offre, il n'a pas donné ses plans et son...
Il n'a pas fait l'étude.
Voilà.
Et il aurait pu communiquer son esprit de voir ce que j'ai l'habitude de faire. Ça, vous pouvez lui regarder.
Bah, il présente leurs différentes réalisations.
Oui, c'est ça.
Et après, c'est bien donné dans l'esprit, c'est que c'est un bâtiment, si on voulait faire un grand bâtiment, qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les subventions pour, et que ce bâtiment que nous allons faire, il va être modulable, après on va pouvoir...
Il y aura plusieurs
tranches pour pouvoir arriver à mettre la salle des fêtes là-bas, que cela, bon, théoriquement, on devait mettre un couchel dedans, quand même, donc je vais la garder encore...
Quelques années.
Pour ça que maintenant on va changer quelques plaques avant qu'elles tombent sur la tête
d'Angélie.
Ah oui, c'est vrai qu'il y en a une qui est.
Ouais.
Oh, c'est léger.
Oui.
Bien, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, eh bien, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Les abstentions adoptées. Je vous remercie. Ensuite, on passe à la vidéoprotection. Donc ça va être notre... c'est notre fil rouge, hein, parce que ça fait quand même un moment, puisque c'était en février 2024 hein, que nous avons commencé à solliciter des subventions à droite et à gauche, que sont donc... l'Europe, pas l'Europe.
Pas jusque-là.
Non, mais il y a des fonds européens, mais pas pour la vidéoprotection. L'État, la région et le département. Alors, l'État nous avait dit non, le département nous avait dit non. Donc, ça, c'était en 2024. La région, elle, nous a dit oui. Merci. pour un montant, donc, ils nous ont attribué une subvention de 18 234 euros. Mais il nous faut aller chercher parce que ça ne suffira pas pour que l'on puisse réaliser ce projet qui est à hauteur de 62 315 euros. Donc il faut qu'on aille chercher les subventions à nouveau du département et à nouveau de la DETR et de l'État. Et on espère bien cette fois les avoir. C'est vrai que c'est plus compliqué pour avoir des subventions maintenant, mais on va quand même essayer. Donc c'est pour ça qu'on revient devant vous ce soir, pour vous demander eh bien, de nous donner la possibilité de refaire ces demandes et d'approuver le fait que l'on sollicite à nouveau et l'État et le département. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est toujours la même, hein, toujours, la société attend toujours.
Et ils n'augmentent pas les prix. Hein.
Voilà, on croise les doigts.
Ça fait déjà un an et demi qu'ils ont fait.
C'est ça. Vie, c'est ça. Ça pourrait évoluer, mais pour l'instant, ça ne change pas. Donc, s'il n'y a pas de questions à ce dossier, je vais mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées. Je vous remercie. La cantine et le choix du prestataire. Ça fait déjà 4 ans que l'on a choisi un fournisseur concernant notre cantine. Il fallait renouveler ce marché. Donc là, c'est le centre de gestion. On avait signé le dernier conseil municipal. On avait approuvé la signature de la convention avec le centre de gestion. Hein. C'est eux qui se sont occupés de tout pour passer le marché avec les documents, la mise en ligne, l'analyse. Vous savez que c'est très timé et très contraint dans la procédure, avec une publication des offres, une réception des offres. Alors, sauf qu'on n'a eu qu'une seule réponse, hein, il n'y a qu'un seul prestataire qui a candidaté. Je dirais, heureusement pour nous, dans le choix, c'est RPC, c'est celui qu'on a actuellement, dont on est content. Donc, même s'il n'y en a qu'un, eh bien, tant mieux pour nous que ce soit celui-là, parce qu'on sait ce qu'on a. Donc, par contre, au niveau des prix, c'est plus tout à fait la même chose, puisque on a maintenant un montant prévisionnel de marché qui est de 56 173 euros hors taxes, avec un coût de repas, alors on va plutôt parler en TTC, qui sera à partir donc du 1er septembre 2025 à 3,37 TTC. En 2021, nous étions à 2,63 TTC quand on avait conclu le marché pour 4 ans. Mais en cours, avec les problèmes, guerre en Ukraine, inflation, etc., Covid, on avait eu une hausse qui, normalement, n'était pas dans le contrat. Mais en fait, c'était simple. Hein, le fournisseur a dit, eh bien, soit on augmente, soit on vous livre plus. Donc, personne n'a souhaité faire la cuisine. Voilà. Donc du coup, il a bien fallu accepter cette augmentation qui était déjà donc passée à 3,22. Donc au jour d'aujourd'hui, les repas sont payés 3,22 euros TTC et nous avons environ en moyenne entre 100 et 110 repas qui sont servis chaque jour à la cantine avec des pointes en fonction des jours. Donc ce nouveau marché est conclu pour une durée de 4 ans. Et vous avez eu le rapport de l'analyse de l'offre qui est joint à ce dossier. Donc c'est pour ça qu'il vous est proposé de signer ce marché avec RPC, puisque de toute façon, malheureusement, nous n'en avons pas le choix. Ou alors à moins qu'il y ait des nouvelles personnes qui souhaitent faire la cuisine. En quel cas, nous étudierons la chose. Est-ce qu'il y a des questions ?
Pardon, ça repart pour 4 ans.
Ah oui, ouais, ça on est tenu
c'est,
de.
Ça peut pas être.
Non.
C'est 4 ans.
C'est 5 ans.
Bah, ça peut bah, aussi.
C'est un an renouvelable.
Oui, c'est un an renouvelable. Ouais. Après, trois fois. On peut contester s'il y a des causes, des manquements, des choses comme ça.
Il faut vraiment qu'il y ait des problèmes.
Oui, je comprends.
C'est un an, mais le marché en lui-même, on recommence pas la même procédure avant 4 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Mais bon. Il a pris 15 centimes de plus.
Oui, non, mais bon, c'est vrai qu'on a eu qu'un seul candidat. Hein, donc,
mais on n'a jamais de problème avec
non.
Franchement.
Non, et puis c'est bon. Hein.
Ouais, vraiment.
Oui, on peut dire que la commune se réjouit que ce soit RPC qui est postulé.
Ouais.
Ah oui.
Oui, parce que c'est pas le cas, c'est pas le cas de toutes les autres communes. Hein.
Alors, on a eu Happy Restauration qui nous a envoyé un mail en disant que le cahier des charges était trop contraignant pour eux. Parce qu'on demande quand même du bio, on demande un menu végétarien, et donc ils nous ont répondu que ce qui était dans les clauses du CCTP, ils ne pouvaient clairement pas répondre à la demande.
Parce qu'en fait, on a la loi Egalim qui dit qu'on doit demander telle chose et telle chose, et puis on essaye toujours d'être un peu plus vertueux, de dire ben, on va faire plus de bio, plus de ci. Mais le problème, c'est qu'après, pour ceux qui font les repas, quelquefois, c'est compliqué pour trouver tous les produits bio nécessaires. Travailler local, c'est pas toujours simple, facile non plus. Et s'ils ne répondent pas à ça, eh bien, c'est très pénalisant pour eux. Donc finalement, ils préfèrent décliner. Et ça a été le cas notamment pour des communes de Miribel, où en fait, leur cahier des charges, il était tellement contraint que personne n'a répondu. Donc il a fallu qu'ils refassent une demande en allégeant leur cahier des charges. Parce qu'au plus on en demande, eh bien on a de candidats.
Oui, et puis aussi,
il aurait pu y avoir une traduction sur le prix. C'est-à-dire avoir d'autres candidats, ça va avoir pour faire du bio et du local.
Oui, mais voilà, nous, on est un petit marché de nouveau.
Voilà, c'est ça, d'autres communes, et c'est de la restauration collective. Ils interviennent aussi pour des EHPAD, des choses comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que s'adapter qu'a-t-il, c'était compliqué. Parce que chaque commune, chaque établissement a son propre cahier des charges. Donc là, eux, RPC, ils ont quand même le monopole sur le territoire. Mais pour d'autres, ils se sont dit, non, c'est trop contraignant pour nous. Ils sont à
côté de Bourg.
Vers Pays de Gex, en partant. Mais il y a une antenne qui ouvre à Civrieux. Donc nous, à partir de la rentrée de 2025, les repas seront confectionnés à Civrieux. Voilà, donc à côté de Saint-André de Corcy. Et ils ont quand même aussi beaucoup de labels agri-local, etc.
Quoi. Tu disais, Catherine,
oui, mais ils travaillent déjà avec... Ils travaillent déjà avec certains fournisseurs qui sont dans le agri-local 01.
C'est bien, parce que c'est moins...
Oui, mais c'est loin d'être simple hein, aussi respecter...
On a les moyens, après, de contrôler que vraiment... ils satisfont leurs promesses en termes de...
Alors, j'imagine qu'il y a des organismes qui le font.
Oui, ils sont contrôlés.
Ils ne peuvent pas dire je fais du bio, je fais du local, que ce ne soit pas vrai. Quoi.
Avec les menus, ils donnent la liste des...
Oui, sur les...
Alors, sur les barquettes, c'est marqué.
Oui, de toute façon, ils sont contrôlés.
Non, mais on ne va pas se mentir, quand il y a un produit bio par jour, en général, c'est le prix. Je ne sais pas... Mais là, dans le marché actuel, on aura quand même un repas bio 100%, donc 100% bio par semaine, un produit bio par repas par jour et un repas végétarien par semaine.
Végétarien pour toutes. Pour
obligatoire, c'est la loi Egalim.
Ça, c'est la loi Egalim.
Voilà.
C'est la loi.
Mais c'est presque aussi important qu'un produit local.
Ah, mais totalement, il vaut mieux un produit local qu'un produit bio qui vient d'un pays.
Nous, c'est ce qu'on privilégie. Le local, il est irremplaçable par rapport au bio. Si le bio, il vient du Maroc et qu'il est bio au Maroc. Ça, on est bien d'accord. Hein. Privilégions le local.
Alors, on maintient aussi le menu sans viande pour ceux qui ne le souhaitent pas, qui est remplacé. Et il y a le choix aussi, ce qui est bien pour éviter le gaspillage, c'est que celle qui passe les commandes des repas, elle peut
moduler.
C'est-à-dire que selon si c'est des brocolis ou des pâtes, elle sait qu'elle ne va pas commander la même quantité parce que ça ne va pas se manger de la même manière. Donc elle peut prendre moins de barquettes de brocolis et ajuster en fait.
Ce qui n'est pas le cas de tous les,
fournisseurs. Nous, on l'a vraiment demandé parce que c'était pour nous.
Quand il y a des frites, il y en a plus.
Ah, bah exactement.
Mais brocolis.
Ah, bah ils se mangent bien les brocolis.
Mais ils se mangent,
les gratins de brocolis.
Ah, j'ai donné brocolis, désolé, c'était pas un mauvais exemple.
Non, c'est pas un bon exemple.
Mais en tout cas, voilà, selon.
Les épinards.
Oui,
non, même pas plus. Ils aiment aussi.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce nouveau, si je puis dire, marché cantine avec RPC. s'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Non, mais sinon, tu fais la cuisine. Je ne suis pas sûre que non. Donc, adopté. Merci. La délibération suivante concerne alors les tarifs, donc cantine, puisqu'on a eu une augmentation, mais également périscolaire, centre de loisirs, pour les nouveaux tarifs à partir du 1er septembre. Alors c'est quelque chose qu'on a aussi vu à la COMG de la semaine dernière. Donc actuellement, on a plusieurs tarifs, puisque comme on a une convention avec la CAF, on est obligé d'avoir des tarifs dégressifs. Oui. Progressif, dépend dans quel sens on les voit. Pour trois tarifs différents selon le quotient familial. Donc pour le périscolaire du matin, pour la cantine, pour l'étude. Alors là, il n'y a pas trois tarifs pour l'étude parce qu'on n'a pas de convention avec la CAF sur ce service-là. Et pour le périscolaire du soir, avec deux tarifs en fonction de l'heure, de 16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30. Pour vous donner une idée également de la fréquentation, alors c'est toujours en moyenne bien sûr, hein, du pôle enfance, le périscolaire du matin c'est en moyenne 14 enfants, le repas cantine 100 avec 110 enfants en moyenne, l'étude et périscolaire du soir de 16h30 à 17h30 c'est en moyenne 50 enfants, et le périscolaire du soir 17h30-18h30 c'est 20 enfants en moyenne. Et puis, depuis septembre 2025, nous avons le centre de loisirs les mercredis. Donc là, c'est pareil, il y a trois tarifs selon le quotient familial, que ce soit en journée ou en demi-journée, avec également un tarif pour les extérieurs à la commune, puisqu'on a quelques familles, donc on le marque, hein, 3 à 4 familles qui n'habitent plus Tille, mais qui viennent quand même les mercredis au périscolaire de Tille, avec une fréquentation en moyenne du centre de loisirs qui est de 30 enfants, que ce soit les tout-petits de la maternelle jusqu'au CM2. Donc actuellement, on déclarait à la CAF pour obtenir la PSO, la prestation de service ordinaire, on déclarait le périscolaire du matin, du soir et les mercredis, sauf l'étude, et à compter de la rentrée scolaire, la nouvelle, on déclarera également le temps méridien. Donc nous devrions percevoir une subvention plus importante de 15 000 euros supplémentaires par rapport à ce qu'on perçoit, uniquement donc pour la partie cantine. Mais pour couvrir le besoin au niveau de la cantine, pour pouvoir être conforme à ce que la CAF nous demande, il nous faut recruter un poste à 25 heures. Donc les 15 000 euros qui nous sont alloués par la CAF eh bien, seront dédiés aux recrutement de ce poste supplémentaire, ce qui fait que le reste à charge pour la commune est actuellement, avant toute augmentation, d'environ 15 000 euros. Mais comme on ne souhaite pas financièrement supporter une contribution plus importante, on propose de réactualiser nos tarifs. Alors si on commence par la cantine, donc là on était à 5,40 qui se dissociait avec le tarif du repas qui était de 2,90 plus le temps de garde à 2,50. Et là donc nous proposons de passer le prix du repas de la cantine donc à 3,37, ce que RPC nous facture, et le temps de surveillance à 2,63, donc pour le quotient familial le plus élevé. Hein. Donc ce qui fait un tarif de cantine à 6 euros à la place d'aujourd'hui de 5,40 €. Et ensuite, donc, on décline le quotient familial de manière dégressive en enlevant quelques centimes à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je parle du quotient familial le plus important. Donc, pour le périscolaire du matin, ça fera un tarif à 2,63 € au lieu de 2,50 €. Un repas de cantine à 6 au lieu donc de 5,40 €, une étude du soir à 2,63 € au lieu de 2,50 €, un périscolaire du soir à 2,63 € au lieu de 2,50 € et un périscolaire du soir, donc la dernière heure, à 3,13 € au lieu de 3 €. Et puis donc concernant le centre de loisirs du mercredi, il est proposé de maintenir les mêmes tarifs que ce qu'on a mis en place en septembre 2024, puisque l'année scolaire se termine et qu'on n'a encore pas tiré le bilan de tout ce qui s'est passé sur tous les mercredis de l'année pour pouvoir savoir exactement eh bien, le coût de ces mercredis. Donc c'est pour ça que pour le centre de loisirs du mercredi, il vous est proposé de maintenir les mêmes tarifs, donc la journée à 26 €, la demi-journée à 13 €, et puis pour les non-tillois, 28 € la journée et 14 € la demi-journée. Voilà ce qu'il vous est proposé. Est-ce que vous avez des questions ? Je sais qu'on en a déjà beaucoup débattu. Voilà, je sais que ça va faire une augmentation, mais bon, c'était quand même des prix au niveau des tarifs qui étaient en vigueur depuis septembre 2022. Donc depuis, il y a eu aussi des augmentations au niveau des salaires avec l'évaluation du point d'indice que l'on n'avait absolument pas non plus répercuté. Donc malheureusement, et puis on sait que tout ce qui est fluide, l'eau, l'électricité, enfin tout ce qui va avec, maintenance de tout ce qu'il faut pour faire tourner l'école, eh bien ça a aussi un coût et ça subit souvent beaucoup d'augmentations. Donc c'est pour ça qu'il vous est proposé donc de valider ces nouveaux tarifs pour la rentrée à partir du 1er septembre 2025.
Sauf qu'on n'a pas augmenté le foncier.
Ah non, on n'a pas augmenté les impôts, la part.
Voilà, donc du coup,
là, c'est uniquement nos tarifs par rapport aux augmentations aussi qu'on subit.
Oui, hein, c'est pas... Ça veut dire que les voisins ne sont pas impactés par un autre impôt pareil.
Non.
Voilà. Il faut payer l'utilisateur.
Il doit arroser leur main.
Là, voilà.
Faire payer l'utilisateur.
Bah oui, c'est...
Il y a encore 10
délits. C'est ça.
Oui, mais il y a des trucs... Non.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ? Bien, si vous n'en avez pas, eh bien, je mets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions adoptées, je vous remercie. Puis là, alors ça date un peu, hein, puisque Selim, notre directeur Périsco, était venu en Comfinance en février 2025 nous présenter donc sa structure qui s'appelle Escapade pour Sport Escapade, pardon. Oui, pas que Escapade. Moi, je voyais tout de suite là. Non, c'est Sport Escapade pour l'ouverture d'un centre de loisirs pour les vacances scolaires sur la commune. Donc ça serait pour la première semaine des vacances de la Toussaint. Donc cette année, nous sommes impactés uniquement par celle-ci. Mais également en 2026, la première semaine des vacances d'hiver, la première semaine des vacances de printemps et la première semaine des vacances d'été, donc soit 4 semaines par année scolaire. Donc Sport Escapade, la structure, nous fournit une prestation donc, qui est clé en main. On ne gère rien, ça c'est plus facile. On met simplement à disposition donc, les locaux de l'école et de la salle des fêtes pendant les périodes mentionnées. L'accès à la salle des fêtes, comme on l'avait dit en COMG, et donc il y a une convention spéciale si on accède à sa demande qui fait en fonction des réservations, notamment par les différentes associations. Hein, ça ne viendra pas impacter la fréquentation des associations actuelles par rapport à la fréquentation que pourrait en faire Sport Escapade. Et le devis proposé par l'association est de 1 350 € TTC par semaine donc de vacances. Et un sondage donc avait été réalisé pour savoir si l'offre pouvait être viable ou non. Alors après, nous, on n'a pas à savoir finalement le nombre d'enfants, hein, puisque nous, on paye un prix de prestation et puis c'est à l'organisateur eh bien, d'avoir le plus grand nombre possible. Mais il y avait environ 40 familles qui étaient intéressées par ce nouveau service. Et puis, pour rappel, il y a déjà des enfants tillois qui partent en vacances scolaires avec la structure de Selim qui officie déjà sur d'autres communes comme Mionnet. Et puis ailleurs, non, que Mionnet. Donc il y a déjà des enfants hein, qui partent régulièrement avec, avec son sport escapade. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que les familles payent aussi quelque chose en plus?
Les familles?
Oui.
Ah ben les familles, elles vont payer la prestation à sport escapade.
Ah oui, d'accord, ok.
Nous, on paye le... En fait, nous...
Le service.
On paye le service qui est amené aux familles. Et après, il y a un prix forfaitaire qui est demandé aussi aux familles pour pouvoir... Parce qu'il y a les repas, par exemple, parce que ce sont fournis toutes... nous, on fournit, en fait, les locaux. Et après, la société fournit tout le matériel nécessaire à faire toutes les activités qui sont proposées. Donc là, il y a un planning. C'est ce qu'ils nous avaient présenté à la Comfinance. Là, il y a un planning par semaine d'activité. Alors, soit, je ne sais pas, il y a un thème, par exemple. Je dis, pour la Toussaint, thème d'Halloween, ou je ne sais pas, la construction, ou la création de costumes, etc. Donc, il y a la fourniture de tout ça. Et nous, les 1350 euros sont le service que l'on rend aux habitants qui ont des enfants, de pouvoir avoir une structure qui permet d'accueillir des enfants.
Voilà. Donc en fait, les parents payent en plus de ces 1300 euros.
Ah, bien sûr.
De ces 1300 euros.
Ah oui, nous, c'est la commune là, qui paye les 1300 euros.
Oui, tout à fait.
Oui, là, c'est
et
la
après,
commune.
Ils payent, les parents payent comme s'ils allaient, ils mettaient leur enfant dans une colo ou dans un centre de loisirs.
Nous c'est le service que nous c'est le service en fait que l'on finance pour pour accueillir sport escapade qui là aussi je sais pas s'il propose différents tarifs. Non, c'est pas réglementé.
Non,
ça.
Parce que lui il s'est retiré de la CAF.
D'accord.
Il est donc, pas... il le faisait avant mais maintenant il n'est plus affilié à la CAF.
D'accord.
Je crois qu'il propose qu'un tarif.
Oui, d'accord.
D'accord.
Et en plus je connais pas le prix qu'il applique auprès des parents. C'est propre à lui. Et
c'est ça.
Nous, on ne gère pas les inscriptions.
Mais c'est surtout pour proposer le service. On s'aperçoit que finalement, le centre de loisirs fonctionne bien. Les enfants sont aussi surtout contents d'être ensemble. Donc il le voit, Célim, dans la structure sport escapade qu'il a, où il y a pas mal de Tilois qui vont passer une semaine, etc. Et en fait, les enfants, ils restent entre eux, quoi, parce qu'ils sont copains, et donc ils partent en vacances entre copains, et c'est ce qui leur plaît, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Donc c'est pour proposer ce service-là, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions, je vais soumettre à votre vote. Il y a des votes contre, des abstentions, adoptées. Je vous remercie. La délibération suivante, eh bien, c'est dans la même lignée, hein, puisque c'est la mise à disposition de l'école et de la salle des fêtes pour pouvoir accueillir les enfants qui pourront quelquefois partir hein, de aussi, tout ne se fera peut-être pas aussi ou à l'école ou à la salle des fêtes. Hein. C'est quelquefois ils vont faire des sorties.
Oui,
sorties.
Comme le centre actuel.
Hein, comme le centre actuel. Mais là, on est obligé donc de conventionner.
C'est pas une colo.
C'est le jour.
Ça. Oui,
il y a pas il rentre le soir.
Oui. Parce que dans sa structure à Lyonnais, il propose les deux centres de loisirs et colo. Là, c'est que du centre de loisirs, c'est à la journée. Mais il y aura des sorties d'organiser.
Donc, en fait, c'est une convention qui met à disposition donc, l'école et la salle des fêtes. Donc, cette convention qui a été jointe au document que vous avez reçu, bon, c'est classique, hein, c'est l'assurance, gestion, etc. Et donc, c'est vrai que n'était pas rajouté ce qu'on a fait rajouter, ce dont on a parlé la dernière fois en COMG, que c'était bien évidemment en respectant les différentes associations qui occupent la salle des fêtes à certaines heures, de se plier au planning des associations. Mais qui souvent ne fonctionnent pas les vacances. Donc voilà. Donc là, il n'y a rien de très spécifique. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette convention ? S'il s'il n'y a pas de questions, je vais soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Je te laisse présenter, Sandra, s'il te plaît, la décision modificative numéro 1.
Oui, donc c'est une opération d'ordre. En fait, on a voté le budget le 27 mars dernier. Et après retour de la trésorerie et des services préfectoraux, on a un déséquilibre de 380 euros. Donc en fait, ça concerne les amortissements. On est obligé d'avoir une somme en recettes de fonctionnement qui doit être équilibrée en dépenses d'investissement, et nous, ça ne l'est pas. Donc il convient de prendre une décision modificative pour rectifier cette différence. Donc on va piocher dans de l'argent où on a mis des sous et qu'on ne va pas forcément utiliser, qu'on va retirer ces 380 euros. Donc à l'article 21-31, construction de bâtiments publics, pour les injecter au 13-913 en dépenses d'investissement, subventions, transferts, départements. C'est juste un jeu d'équilibre. Ça ne change en rien le montant du budget 2025. Voilà. C'est juste une régularisation.
S'il n'y a pas de questions, c'est vraiment des opérations comme on a l'habitude de voir.
C'est du classique. Hein,
il y a classique. Pas de... donc je vais soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. La délibération suivante, ça concerne la garantie d'emprunt de la SEMCODA. Nous avions déjà accordé une garantie d'emprunt de 762 450 euros à la SEMCODA sur les logements qu'il construit au 401 rue de la Mairie. Mais puisqu'il n'y a pas le commerce qui est remplacé par deux logements PLAI en prêt locatif, donc aidé d'intégration, donc la SEMCODA nous sollicite de nouveau pour la garantie de cet emprunt pour un prêt de 129 700 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Service, avec donc une garantie d'emprunt de 64 850 euros. L'autre moitié étant garantie et supportée par le conseil départemental de l'Ain. Donc c'est classique par rapport à tout bailleur social qui ne peut pas construire si la commune n'apporte pas de garantie d'emprunt. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux documents qui vous ont été transmis. S'il n'y a pas de questions, je vais soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Et même chose pour un habitat. Donc, un habitat, on avait accordé la garantie d'emprunt pour les 8 pavillons PSLA qui ont bien avancé, hein, qui sont déjà presque terminés, qui devraient être donc livrés d'ici la fin d'année. Un habitat nous sollicite, donc là c'est la garantie d'emprunt qui est pour le bâtiment collectif, les 6 logements locatifs, donc 2 PLAI, 3 PLUS et 1 PLS. Alors PLAI, je ne sais pas ça par cœur, c'est donc ce que je vous ai dit, le prêt locatif aidé d'intégration. Le PLUS, c'est le prêt locatif à usage social. Et le dernier, PLS. Le PLS, c'est le prêt
social
location accession. Donc 6 logements locatifs sociaux. Voilà, c'est plus simple. Donc c'est un prêt de 944 037 euros auprès de la Banque des Territoires avec une garantie d'emprunt de 472 018 50 et 50% toujours supporté par le Conseil départemental de l'Ain. Donc là, les logements seront... terminé d'après l'avancement, en fait, soit fin d'année. De toute façon, la date butoir est vraiment le premier trimestre 2026, mais ils espèrent que tout se fera en même temps. Je rappelle également qu'on est en train de voir aussi avec Eiffage, puisqu'il va y avoir un plateau piétonnier qui va être fait pour pouvoir sécuriser en fait l'entrée et la sortie des personnes et ralentir surtout la circulation sur la rue du Canal à cet endroit-là. Et donc les réunions de chantier, elles vont commencer entre Eiffage et un Habitat pour positionner véritablement la bonne entrée et le plateau piétonnier de manière à ce que ce soit le plus sécur pour les voitures qui arrivent ou les voitures qui sortent. Voilà, c'était pour l'info un petit peu des travaux. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions par rapport à cette garantie d'emprunt, je vais proposer à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées ? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est le SIEA pour le fonds de concours remplacement LED. Donc là, c'est la troisième et dernière tranche, puisqu'on en a déjà fait deux, et il reste 114 points lumineux, c'est ça, à changer. Donc, certains sont subventionnables, d'autres non subventionnables. Le montant total des travaux s'élève à 79 400 euros, avec un reste à charge pour la commune de 41 487 euros. La commune, donc, pour financer ses travaux, a contracté un prêt sur 12 ans à 2%, donc soit 25 080 euros avec un remboursement donc, qui représente 2 371 euros par an sur 12 ans, comme je vous le disais. Le reste, 16 407,22 euros, est inscrit en dépenses d'investissement du budget. Par contre, ce que nous n'avons pas fait, mais ce que nous ferons lors du conseil municipal de septembre, il vous sera proposé de solliciter également le fonds de concours de la communauté de communes sur ces 16 407,22 euros, puisqu'il y existe un fonds de concours transition écologique qui a été créé et qui nous permet, je ne pensais pas que ça marche pour l'éclairage public, mais ça fonctionne. Donc on peut obtenir 50% de ces 16 407 euros via la communauté de communes et on prendra donc la délibération au prochain conseil municipal. Donc on reviendra vers vous pour solliciter ce nouveau fonds de concours. Enfin, ce n'est pas un nouveau fonds de concours, mais je ne pensais pas qu'on était éligible par rapport à l'éclairage public. Je pensais que c'était pas, que ça rentrait pas dans le thème, mais si. Donc, de ce fait, on va pouvoir le solliciter. Et puis les travaux, je sais pas, c'est passé en commande. Hein, et donc.
Normalement, c'est à la fin de l'année.
D'accord. Ok. Donc, il devrait tout changer. Et y compris les lotissements.
Alors, c'est tous les lotissements qui sont sur la ligne. Sur les lignes d'éclairage public.
Oui.
Les nouveaux lotissements ne le sont pas parce qu'ils sont indépendants. Tous les luminaires, et certains sont obligés de changer même les poteaux, parce qu'ils ne peuvent pas, dans certains qui sont trop petits, le diamètre est trop petit, ils ne peuvent pas mettre les boîtiers classe 2, enfin c'est plus aux normes, donc et ils seront obligés de changer aussi certains lotissements, les poteaux aussi. Autrement, le luminaire lui-même, c'est pratiquement celui qui est ici, enfin, qu'ils ont déjà installé.
Donc d'ici la fin de l'année, on devrait avoir terminé l'éclairage public de toute la commune. Donc ça sera bien, tout le monde aura l'aide, les mêmes, et puis ça fera aussi certainement encore un peu d'économie en éclairant mieux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions, je vais soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées. Je vous remercie. On continue avec le SIEA. Donc là, c'est la partie qui nous reste concernant l'installation de la borne pour recharge de voitures électriques. Hein. Je rappelle que cette borne, elle va être installée. Donc c'est une double, enfin c'est une borne mais avec deux prises. Elle va être installée sur le parking du cimetière.
Pas bien loin de Aubert,
oui.
À côté du food truck. Ils prennent les trois places de parking, les dernières qui sont plus proches du fond.
D'accord.
Ils mettent la borne au milieu.
Donc c'est une borne semi-rapide. Alors moi j'avais un tarif total de 15 000 euros. Et en fait, il reste, il y a un coût de l'installation qui reste à la charge de la commune qui est de 291,67 €. Et on a également un devis d'Enedis qui nous facture en fait le raccordement au réseau de distribution d'électricité qui a déjà été tiré, hein, puisque c'était, c'est déjà fait depuis un certain temps, pour 691,20 €. Donc en fait... Pardon. Donc l'installation et le raccordement électrique est un coût pour la commune de 982,87 €. Et là c'est pareil, les travaux seront...
C'est pareil. Là après, d'ici septembre...
D'ici la rentrée.
Dernier trimestre.
Enfin, c'est ce qu'ils ont dit.
C'est le SIOA qui sous-traite à une société.
Il y a deux sous-traitants dans le département et qui font partager le Baltazar, donc il n'a pas eu
le marché
ici chez nous, donc il a eu ailleurs.
D'accord. Donc là c'est une autre société qui se déploie en ce moment. Et il y a eu quand même, je pense, pas mal de communes qui ont.
Ils ont partagé, je ne sais pas comment il fait, Baltazar, il doit faire tout plus Garbourg. Pas même quand il y a
trois.
Il me semble,
oui.
Il y a un
PJ. Ah ben là, une fois que la borne est installée, oui, il y a un coût de maintenance.
Oui.
Bon, c'est une borne semi-rapide. Alors, si. Moi, je suis toujours surprise, celle qui est à Nièvrose, en face de la caserne des pompiers, là, je ne sais pas si vous la voyez, celle qui est au rond-point. Ouais. Il y en a une là, et il y a pratiquement tout le temps des voitures. Ouais. Parce que je pense qu'elle est pas loin de l'autoroute, peut-être, je ne sais pas si c'est pour ça, mais alors vraiment, il y a pratiquement tout le temps. Tout le temps des voitures. C'est impressionnant.
De 18h, il y a du monde.
Donc, je pense que. Enfin, une borne semi-rapide, ça a quand même. Oui, je pense que c'est quand même intéressant. Donc, ma foi, bon, on verra bien à l'usage.
Mais c'est nous qui avons décidé semi-rapide ou c'est eux?
Non, en fait, il y avait plusieurs possibilités, mais c'était une question financière. Parce qu'en fait, si on prenait la borne ultra rapide, ça coûtait, là, on avait un coût plus important. Tu l'as le détail?
Non.
Oui, en fait, la borne rapide, c'était 50 000 € à partir de 50 000 €. Nous, la borne semi-rapide, c'est 25 000 €. Et la borne normale, donc là c'est la borne lente si je puis dire, qui est à 15 000 €. Mais la borne semi-rapide, ça peut quand même avoir un intérêt parce que quelqu'un qui vient voir, une personne et qui pendant sa visite eh bien, veut se recharger d'une manière quand même assez rapide, ça peut être intéressant. Et après, donc, ça sera le choix de l'opérateur qui va fournir la prestation. Donc ça, c'est un autre, une autre histoire, si je puis dire. Et il y aura toujours une petite partie qui reviendra à la commune. Et on espère que ce qui reviendra à la commune financera la maintenance de l'appareil.
Ils annoncent une opération blanche.
Mais ça, on ne sait pas. C'est toujours pareil.
Et la réglementation, justement, sur celui qui charge... qui a fini de charger et qui reste toute la journée.
Alors ça c'est, enfin moi je, comment dire, moi qui suis voiture électrique depuis 10 ans, si je fais ça, je paye la minute passée alors que je n'ai rien à y faire, un prix exorbitant.
Oui. Non mais
c'est complètement, moi je.
Il y aura une réglementation comme ça parce que c'est.
Ah oui, c'est pas du tout. En fait, les bornes de recharge, elles sont pas faites du tout pour stationner. Elles sont faites vraiment pour charger et une fois que tu es chargé. Que ta voiture elle est pleine, si tu pars pas, ça coûte très très cher.
Ouais, moi, ça te prévient.
Oui, en fait, on a sur le téléphone, elle me dit par exemple, il vous reste 2 minutes. Je me suis chargée cet après-midi parce que j'avais vraiment besoin de charger rapide au Leclerc. Et en fait, quand il reste 2-3 minutes, elle m'envoie une alerte. Et je vais vite, hein, parce que sinon, chaque minute passée, alors que ma voiture elle est pleine, ça coûte, enfin, je sais pas combien, ça coûte très cher. Quoi. C'est pas 10 balles, mais voilà, c'est vraiment fait pour que tu t'en ailles. Donc moi, je m'en vais avant la fin, toujours. Comme ça, je risque rien. Parce que sinon, c'est vraiment. Enfin, moi, ça coûte très cher. En tout cas.
Et il n'y a pas une erreur, là, c'est marqué 15 000 euros dans les trois.
Oui, parce que
tu nous as donné, c'était.
Non, mais parce que c'est 15 000 euros la borne seule, alors que nous, il y a deux.
Double.
Et c'est 25 000. Parce que nous, en fait, c'est une borne toute seule, mais il y a deux prises. Donc c'est pour ça.
Oui, mais là, elle est marquée 15. Donc elle va nous coûter 25.
Non, nous, elle nous coûte 982,87. Oui. Nous, on paye le raccordement et le raccordement électrique. On paye.
Alors, c'est quoi ce tarif de 15 000 euros?
Non, mais c'est quoi 15 000 euros?
C'est quoi ce 15 000 euros qu'il y a là-bas?
Parce que du coup, c'est marqué 25
000 euros. Comment?
Nous, on ne paye que la banque seule.
Oui, mais nous, on ne la paye pas.
Oui, mais c'est ce qui différencie des 25 000. 25 000, c'est si on en prend plusieurs. Mais nous, on n'en aura qu'une. Donc, elle est à 15 000.
Oui, parce que c'était.
Parce que la différence, c'est si semi-rapide 25 000 euros, c'est 25 000 euros là. Mais si, s'il n'y a qu'une seule borne.
Nous, on n'a qu'une borne.
Donc ça nous coûte 15 000.
Oui, mais on ne paye pas ces 15 000.
Non, mais. C'est le tarif qui est marqué là.
Je me suis mal
dit 25 000, oui.
Ah, je me suis trompée.
Non. Nous, le coût de revient, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est-à-dire que si on n'en prend qu'une, c'est 15 000 euros. Mais au-delà d'une, c'est 25 000 euros par borne.
D'accord.
Mais nous, la réglementation, nous en impose d'en mettre qu'une seule borne.
Voilà.
Non, mais c'est parce que tu as dit tout à l'heure la différence entre les trois et je n'ai pas fait cette distinction. Voilà. Donc,
c'est pour ça.
Mais moi, j'ai une estimation des dépenses de fonctionnement, c'est 920 euros. Je peux mettre 2000 balles là-dedans. Alors, je ne sais pas s'ils font le ratio de ce que ça va coûter, plus que selon d'autres. Ils vont nous redonner.
Oui, mais les dépenses de fonctionnement d'électricité, là, c'est la maintenance, les 2000 euros.
Ouais. Les dépenses de fonctionnement.
Ouais, c'est pas grave.
C'est pas ce qu'on a dans le contrat. Hop.
Mais là, tes 900, ça correspond au coût de l'installation et au raccordement Enedis. Hein. T'as pas là. Oui. C'est ça, 900.
Montant des travaux inscrits au programme, TTC, 700 euros. Participation du SIEA, 291,67 euros avec la TVA. Et donc, dépenses prévisionnelles nettes restant à charge de la commune, 291,67 euros. Ça, c'est la première. C'est le SIEA qui nous facture ça. Et ensuite, il y a le devis d'Enedis pour le raccordement de la distribution électrique qui, là, est à 691,20 euros. Donc, les deux sommes font 982,87 euros. Nous, c'est les deux prestations que l'on vote ce soir et qui sont inscrites pour le plan de financement, en fait, de cette borne.
Ouais, si vous avez annoncé 1000 balles, c'est ça.
982,87 euros. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est un barnum, donc ce que j'expliquais au quart d'heure citoyen sur la mise à disposition d'un barnum à titre gratuit. En fait, la région propose de mettre en place pour soutenir le tissu associatif pour les communes de moins de 2000 habitants. Donc on signe une convention avec la région pour nous offrir donc ce barnum destiné aux associations. Alors c'est le plus compliqué, c'est de faire le dossier, parce que Sandra a déjà passé beaucoup de temps. Et en fait, la dernière demande, c'est la délibération indiquant notre souhait de cette mise à disposition. Donc ça, c'est le plus facile, de dire que l'on accepte la mise à disposition d'un barnum par la région Aura au profit du.
Tout dépend des dimensions, du coup.
Alors, le problème, c'est ce qu'on a dit en comme j'ai. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la dimension. On sait que c'est un bar bleu.
On la sait, par contre.
Oh, il sera bleu. Il sera bleu, région.
Sa région.
Ah oui, il sera bleu.
Bah oui.
Il sera à l'effigie de la région.
Il sera au sigle de la région. Mais il ne nous coûte rien.
À cheval donné, on ne regarde pas les dents.
C'est ça.
C'est un principe.
Et puis, ça peut toujours être... Ça peut toujours être pratique pour prêter aux assos, etc.
Donc, une délibération autorisant le maire de la commune à solliciter l'attribution du bar.
Voilà, donc c'est une délibération qui nous autorise à solliciter l'attribution du bar.
Sandra, dans tout le dossier, il n'y a pas une dimension.
Non.
Mais le dossier, mais tu arrives à la quatrième étape et il faut une délibération.
Ah ouais.
Tu es à étape 4, tu vois. Toi, j'en étais là. Demande, dernière étape.
Et là,
deux petits astérix avec la délibération. Et alors qu'on a reçu le courrier, il ne te mentionne pas ça sur le courrier.
Bon, c'est très simple le courrier.
Tu mets 30 minutes pour faire la demande et voilà, il faut une autorisation.
Mais on aura un beau barnum bleu.
Voilà.
Ça change.
On en déduit que c'est bleu.
On en déduit que c'est bleu, mais on ne sait pas les dimensions.
Ouais.
Ça se trouve, il est tout petit.
Oui. 3 par 3.
Ouais. 3 par 3.
Un barnum de poche.
Un barnum de poche.
Je n'appelle pas un barnum. Un barnum, c'est
un
peu de 10 mètres carrés.
Ah, ça c'est au-dessus de 10 mètres carrés.
Je vais l'inventer.
Merci, Jean-Marc. Merci. C'est ensuite tonnelle. D'accord. Ok. Bien, alors, est-ce que, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je mets donc cette délibération à votre vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté. Je vous remercie et nous inaugurons ce barnum. Je ne sais pas combien de temps il faut pour l'obtenir une fois le dossier rempli. La dernière délibération concerne le nombre de conseillers communautaires pour le renouvellement en 2026. À chaque élection, on doit procéder donc au plus tard le 31 août 2025 dans toutes les communes de la communauté de communes et dans toutes les communes qui font partie d'une intercommunalité d'ailleurs, à déterminer le nombre de sièges au sein du conseil communautaire. Donc il y a la loi qui dit que le droit commun normalement dans notre communauté de communes serait de 30 conseillers communautaires. 13 pour Miribel, 6 pour Bénaud, 5 pour Saint-Maurice, 3 pour Néron, 2 pour Tramois et 1 pour Thil. Actuellement, c'est parce qu'il y a le choix qui avait été fait par le mandat précédent, puisque la différence c'était d'avoir la composition actuelle de notre conseil communautaire est de 31 élus, puisqu'il y en a 2 pour Thil. Le choix avait été fait de ne pas faire qu'un seul élu pour la commune de Thil, au cas où il y en ait un qui soit pas là, puisqu'il n'y en avait qu'un. Et, donc c'était, et surtout que ça fait un nombre impair, donc en cas de vote... il y a au moins une majorité qui se dégage. Et donc, il est proposé pour le prochain mandat, donc au vu de la population, puisque là, les chiffres qui vous sont donnés sont un petit peu faussés, parce que ce ne sont pas les chiffres du dernier recensement, puisque Miribel est plus proche des 11 000 euros, Bénaud a carrément explosé. J'ai dit euros. Mais c'est pour voir si vous suivez.
Ben, on suivait, tu vois.
C'est bien.
Et on suivait.
C'est bien, voilà. Désolée. Oui, je disais, la population donc, de Miribel est plus proche des 11 000 habitants. Bénaud, alors Bénaud a carrément explosé, puisque le dernier recensement de 2023, je crois, donne 5400 habitants. Hein. Ils ont vraiment beaucoup construit et beaucoup accueilli d'habitants, ce qui était obligatoire pour eux, puisqu'ils sont sous la loi SRU qui les oblige à rattraper leur retard en termes de logements sociaux. Donc c'est pour ça que la population a beaucoup augmenté. Saint-Maurice de Bénaud qui est à peu près stable, Néron qui a augmenté aussi, Tramois un petit peu, et puis nous 1255, donc on est à peu près dans les mêmes... dans ce qui est inscrit ici. Donc il est proposé pour 2026, 14 pour Miribel, soit plus 1, 7 pour Bénaud, soit plus 1, 5 pour Saint-Maurice, 3 pour Néron, 2 pour Tramois et 2 pour Thil, soit un total de 33. À savoir que nous avons déjà délibéré la semaine dernière en conseil communautaire et que cette proposition a été acceptée. Mais il est obligatoire que chaque commune se prononce afin eh bien, de donner son avis sur cette proposition. Voilà. Est-ce que
même vous... si ça a été fait après.
Oui, parce qu'en fait, c'est comment dire. Le conseil communautaire propose. On a voté en conseil communautaire, mais il faut l'aval des communes et notamment de la commune de Méribel, parce que si les communes ne sont pas d'accord, on revient au droit commun.
Ouais. Et puis après, il faut que ce soit accepté par la préfecture.
Et il faut que ce soit accepté par la préfecture aussi, évidemment. Donc, donc voilà, pour expliquer la procédure. Donc, par exemple, Méribel a son conseil municipal ce soir et délibère également ce soir. C'est pour ça que Didier Debès n'est pas là. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions suite à cette proposition? Si vous n'avez pas de questions, je vais soumettre votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Dans les questions diverses, puisqu'on en a terminé avec l'ordre du jour, est-ce qu'il y avait... des questions ou des remarques, Angélique?
Pas de particulier.
Estelle?
Non.
Non plus. Catherine? Oui. L'Ambroisie, donc samedi matin, on va se promener et on repère les lieux d'Ambroisie.
Et on arrache.
J'ai fait un petit repérage cette année et j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup.
Ah oui.
Oh, mais Fiat.
Alors bien chemin de photo. Parce que là, je pense que...
Oui. Ah bon, elle est partout.
Elle
va
voir que je dis. Ah, bah, tu faut que tu viennes avec nous, voilà.
On va pas là demain.
Alors, je suis pas allée partout. Hein. Mais par contre, j'ai vu qu'on avait fauché un peu. Beaucoup, on a beaucoup fauché, tendu un peu.
12 heures.
Donc dans ces cas-là, effectivement, bah, ça, on voit rien. Ça ne pas. Mal.
Ben,
mais on verra.
Tamaris?
Non.
Question?
Non.
Question?
Non. Question? Non. Plus, c'est là où ils ont brassé la terre.
Il y a eu la formation au premier jour.
Là, ils ont brassé de la terre, ils ont mis de l'ambroisie sur la butte.
Ah bah oui, c'est
après t'en as toujours.
C'est la fin de l'année.
Et ben le nouveau chemin de l'arche. Et ben là où ils ont brassé de la terre.
Sur les buts, oui. Oui, ça c'est les pompiers de Méribel. S'il vous plaît.
Moi je suis restée un long moment, j'ai fait quelques photos, comme ça on aura pour. Et les enfants ont été très attentifs et. Sinon, il y a le conseil d'école qui est le.
Et avec combien d'enfants ce matin?
Ils sont 20, d'être 29 du mur.
Et puis, il y a le conseil d'école. Voilà, donc on garde la 6e classe.
Oui, je l'ai là, il y a 141 enfants.
Alors, oui, il y a Madame Poison.
Alors, il y a le départ de Madame Piovesan, le départ de Madame Touchard, le départ de Madame Lux et le départ de Madame Descours. Il y a l'arrivée de Madame Marchand, qui est une enseignante et qui est maître formateur. Et puis pour les autres, en attente de nomination pour les compléments de Mme Marchand, Mme Croin et Mme Combes.
Voilà, parce que toutes celles qui partent, ce n'est pas des enseignants. Non, mais ce sont des
compléments.
Ce sont des compléments des temps partiels. Donc c'est des gens qui sont nommés pour l'année à titre provisoire. Alors quelquefois, on arrive à cumuler deux temps partiels. La logique, c'est.
Alors donc pour info, la classe de maternelle petite moyenne section c'est 28 enfants, grande section c'est 24, le CP c'est 22, le CE1 c'est 20-21. Le CE2, c'est 22, et le CM1, CM2, c'est 25.
c'est des bonnes conditions quand même.
Sachant que l'année prochaine, il y a vraiment des classes pures, à part chez les petits et les extrêmes. Mais ça,
d'habitude, 140
des classes à double niveau.
141.
141.
Enfin, entre, au jour d'aujourd'hui, hein, ça peut
chaque
encore.
Chaque classe son niveau, donc.
Voilà, non, il y a juste petit moyen.
Il y a petite section, moyenne section, c'est la plus grosse classe et il y a 28 enfants. Ouais. Mais après, sinon, c'est que des. Il y a CM1, CM2.
Il y a
CM1, CM2.
Mais avec les effectifs.
Mais avec 25.
Dans l'ensemble, c'est quoi ?
C'est correct.
Bien réparti.
Donc là, sinon, les enfants ont participé. Enfin, il y a la communauté de communes qui est venue faire sensibiliser sur le tri et la fabrication de papier. Il y a eu des étudiants infirmiers, médecins sur le sommeil. L'association côtière en transition autour de la microforêt. Des ingénieurs qui sont venus sur l'égalité filles-garçons. La SNCF sur la sécurité. Un policier municipal pour le permis piéton. Il y a eu des spectacles à l'Allegro, il y a eu la semaine du goût à l'auberge de Thiel, il y a eu des sorties pour une fois par semaine marché nature pour les dernières, pour les maternelles, projet d'élevage et d'études des vers à soie, il y a eu un projet de lecture de contes des élèves tous les vendredis, de la natation à l'espace Lilo bien sûr, la classe orchestre qui continue, le projet des échecs et le projet des incorruptibles, ça c'est des lectures hein, les incorruptibles, hein, c'est ça. Une sortie la journée au parc de Courzieux, au musée du Buget et randonnée, la classe verte sur le volcanisme, ils sont partis 3 jours. Il y a eu la visite des collèges pour les grands et puis ce matin la formation au premier secours. Il y a une matinée sportive au Pétanquedrome et puis le spectacle de fin d'année qui a eu lieu mardi.
D'ailleurs, on peut remercier les garçons pour le montage.
Ouais, pour la scène, parce que c'était vraiment bien. Voilà, Babette, Patrice.
C'est des retours là, sur le projet qui vous a voté pour les gens du voyage.
Positif. Les gens étaient contents d'avoir l'information. Enfin, moi, je n'ai eu que des retours positifs. Les gens étaient contents d'être informés, en fait. Je pense que c'était. On l'avait validé en comité la semaine dernière. Et je pense que. Enfin, moi, les retours que j'ai eus, les gens étaient contents de savoir le pourquoi du comment.
Et puis d'avoir l'histoire.
Et d'avoir, oui, toute la procédure. C'est un problème, c'est Michel, Thomas, bien, je vais donc clore ce conseil municipal enregistrement sans pause. Il est 22h10.